Claudine, ouvrir dans notre Bible
dans l'évangile de Jean et le chapitre 15. Elle est tellement volontaire, Abby, pour aller dans l'école dimanche, c'est agréable. Elle trottine là-bas. Et... Jean, chapitre 15, et nous lirons les versets 12 à 17. Il fait tard. Il fait tard dans la soirée. Il fait tard aussi dans cette carrière terrestre du Seigneur qui tire vraiment à sa fin. Parce que cette heure va appartenir à la puissance des ténèbres. Mais Jésus finit tout ce qu'il a à faire. Il finit chaque détail. Et en ce moment, il finit de poser le dernier enseignement critique pour ses brebis, pour ses frères, pour ses enfants, avant de s'en aller. Et nous lisons donc dans le verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, parce que le serviteur ou l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous allons ce matin considérer l'importance de l'amour fraternel, les objets de l'amour fraternel, le caractère de l'amour fraternel, l'intimité de l'amour fraternel, l'initiative de l'amour fraternel et la mission de l'amour fraternel, et ne vous effrayez pas parce qu'on va aller assez rapidement sur ces points. D'abord, son importance. Je dois dire que pendant les années de ma vie chrétienne, au début, j'ai eu un problème avec ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'avais un gros problème, mais un gros, gros problème. Parce que j'avais été élevé dans une église où c'était le sujet du sermon chaque dimanche. On ne disait rien que ça, sauf ça. Et vous savez que dans certaines églises qui ont perdu le contact réel avec le Dieu véritable de l'Évangile, quand vous arrivez, vous savez ce qu'ils vont dire dans le sermon. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, quand j'entendais ça, j'avais tout ce bagage d'un point de vue moraliste, coupé de Dieu, coupé de l'Évangile, juste moralisant, aimez-vous les uns les autres. Vague, sentimental, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire exactement. Et donc, je n'avais pas vu qu'il y a de la gloire dans ce commandement, que l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ, est tout dedans. Mais je l'avais vu comme un fait horizontal, aimez-vous les uns les autres, coupé de la réalité d'une relation vivante avec Dieu. Alors que nous allons voir que c'est justement comme cette huile qui descend de Christ, son amour pour nous, et qui se répand de nous vers les autres. On ne peut pas aimer, nous aimer les uns les autres si on ne connaît pas le Seigneur. Mais je ne savais pas. Je ne comprenais pas, je le prenais dans l'ancien sens. Je le prenais trop sentimentalement. Alors que la croix est dans ce commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il n'y a rien de sentimental, il y a plutôt quelque chose d'effroyable, parfois. Un grand défi. Vous voulez un défi? Vous ne voulez pas avoir une vie terne et monotone? Je vous donne. Allez, aimez vos frères comme Jésus-Christ vous a aimé, sur la croix du calvaire. Tentez ça pendant une semaine seulement et revenez m'en parler. Aussi, je crois que, en tant que jeune chrétien, j'étais très, très, très axé sur la relation verticale avec le Seigneur. Mais vraiment, et très, très bien, c'est vraiment la plus importante, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Mais je ne voyais pas pendant ces premières années que si on aime beaucoup, 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 beaucoup le Seigneur, on le cherche beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de temps pour l'amour fraternel. On est plus ou moins dans une phase d'égocentrisme religieux. C'est moi et Jésus. Le reste n'existe presque pas. C'est un peu des ombres de ma vie à moi. Vous êtes là, mais seulement vous êtes le fond de ma vie avec Jésus. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. La raison pour l'importance de l'amour fraternel est vraiment une chose que nous devons comprendre. Je veux vous donner deux ou trois idées. Première idée, Dieu n'existe. Le Dieu qui est là et qui nous appelle ce matin n'existe qu'en tant qu'une communauté dans une relation d'amour. Il n'y a pas un Dieu moniste, un Dieu qui est une seule personne tout seul. Dieu a toujours existé en tant qu'une communauté, une trinité de personnes qui existent dans une relation d'amour et cette relation d'amour fait partie de la divinité. Et donc, lorsqu'il nous fait à son image, nous aussi, nous ne pouvons pas exister en tant que chrétiens seuls. Nous ne pouvons pas savoir ce que c'est que d'être chrétien, à moins de nous unir de plus en plus dans une communauté d'amour les uns avec les autres. C'est pour cela que Jésus, quand il arrive à sa prière, il compare les deux. L'amour dans la Trinité et l'amour dans le corps de Christ. Parce que l'une est l'image de l'autre. Écoutez ceci. Jésus dit, ce même soir en priant, dans le chapitre 17 et les versets 11, 20 et 21, « Je ne suis plus dans ce monde, et ils, les chrétiens, les croyants, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, on parle de la Trinité, afin qu'ils soient un comme nous, afin qu'ils existent dans une formidable communauté d'unité d'amour comme nous avons existé toujours. Les versets 20 et 21, je vous laisse lire à un autre moment. Quand la Bible nous exhorte à aimer, parfois la Bible fait allusion à cela. Écoutez ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est des phrases, on glisse dessus et on... Mais attends, nous sommes littéralement les membres des uns des autres. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour. Et toute son activité dans ta vie, tu le veux bien, n'est-ce pas, l'activité de l'Esprit de Dieu? Tu veux plus de son activité de sanctification? Tu veux plus sa puissance, son illumination? Alors, l'activité de l'Esprit ne s'effectue pleinement que dans une atmosphère d'amour. Je vais vous donner deux preuves de cela. Si moi je veux grandir, il faut que je sois dans une église où l'amour règne, parce que là, l'Esprit de Dieu est présent. Et je vous assure, pour l'avoir vécu, que là, quand la dissension commence à pénétrer dans une église locale, l'Esprit de Dieu est contristé et se retire. Et son activité n'est pas la même, parce qu'il est un esprit d'amour et il travaille dans le corps, dans une atmosphère d'amour. Et lorsque nous nous détournons de l'amour, nous nous privons de son activité. Je vous lis deux passages en Éphésiens. Ne tournez pas, sauf si vous êtes hyper rapide. D'abord, je vous lis dans le chapitre 4 et les versets 16 et, pardon, 14 à 16. Écoutez ceci. Il parle du corps de Christ et la manière dont nous croissons pour atteindre la pleine statue le plein statut de Christ. Il dit ceci. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, donc les uns aux autres, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons. Voilà la manière. En disant la vérité avec l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ, c'est pas fini. De lui, Christ, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, ça part de chaque membre qui est comme une articulation ou un membre du corps, qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Le corps s'édifie en parlant chacun la vérité avec amour et en aidant, en jouant le rôle de chaque membre, on s'édifie dans l'atmosphère, dans l'amour. Et donc, vous avez besoin de me supporter si vous voulez grandir, et j'ai besoin de vous supporter, d'être patient, de nous aimer avec ferveur, si nous voulons que l'Esprit de Dieu trouve notre milieu intéressant comme demeure. Le deuxième passage en Éphésiens, c'est dans le chapitre 17, c'est une prière où Paul prie que nous puissions connaître l'amour de Christ dans sa largeur, sa hauteur, etc., afin d'être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Mais regarde comment il commence cette prière, comment nous pouvons atteindre cette bénédiction. Il dit ceci, je lis les versets 17 et 18. Au milieu de la prière, il prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, etc., de l'amour de Christ. Mais nous voyons que ici, Paul dit, pour atteindre cette plénitude de Dieu et comprendre l'amour de Christ, ça ne peut pas se faire moi seul, moi et Jésus. Je dois être fondé dans l'amour fraternel, ainsi, avec tous les saints, Dieu va faire quelque chose en nous collectivement qu'il ne va pas faire en moi tout seul, sans vous. Ça va? Donc nous pouvons voir quel point il est essentiel pour cette église locale dans les années à venir à être soudée et à prier avec une crainte de Dieu et un désir ardent. Ô Seigneur, garde-nous dans cette harmonie si, si précieuse, sans laquelle nous ne pouvons pas te plaire et aller de l'avant. Je vais sauter la dernière raison pour l'importance de l'amour fraternel. Je crois que vous voyez, hein, à quel point c'est important que l'amour fraternel règne. Maintenant, nous allons, ça c'est le point le plus long. Deuxième point, c'est les objets de l'amour fraternel. Regardez le passage encore dans les versets 12 à 14. Et là, pardon, je me trouve. Jésus nous dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Maintenant, aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas un commandement à vous d'aimer tout le monde, d'aimer tous les humains autour de vous. Ce n'est pas le sens de ce commandement. Le sens de ce commandement, vous devez aimer tout le monde, je suis d'accord. Il y a d'autres commandements dans la Bible qui le disent. Mais ici, Christ dit mon commandement, et en grec, il dit littéralement le mon commandement, et le mon est mis là pour accentuer. Mon commandement à moi, mon commandement spécial, c'est que vous vous aimez les uns aux autres, c'est-à-dire vous qui êtes mes amis entre vous. C'est un commandement aux chrétiens d'aimer les autres chrétiens d'une manière particulière. Vous dites, mais est-ce que c'est juste? Je dis oui, bien sûr que c'est juste. Est-ce que je ne dois pas aimer ma femme plus que j'aime votre femme? Oui, mais bien sûr, des amours, il y a des amours particuliers. Est-ce que je ne dois pas aimer mes enfants d'une manière toute particulière? Mais bien sûr. Et le Seigneur a une famille. Et je vous assure qu'il n'y a rien qui plaît à un parent plus que de voir ses enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, s'aimer entre frangins. Ça, je vous dis, c'est un baume au cœur d'un père. Et une chose que aucun argent du monde ne peut, une angoisse qu'aucun argent du monde ne peut enlever, c'est lorsqu'un parent voit ses enfants qui ne s'entendent pas. C'est un chagrin continuel. Donc, le Seigneur nous commande d'avoir un amour particulier. Je vais pas aller très loin là-dedans, mais ça reflète ceci. Écoutez dans sa prière, dans le chapitre 17. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et puis, il dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Vous voyez cette différence? Jésus fait une différence, une distinction entre l'Église véritable et le monde. Même dans notre passage, vous n'avez pas remarqué parce que je n'ai pas lu après le verset 17, mais lisez le verset 17 avec moi. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Et je vous assure que ça a beaucoup d'implications. Le fait que Dieu veut que vous ayez un amour particulier pour l'Église. Ça ne veut pas dire que vous allez exclure. Nous allons voir ça tout à l'heure dans la mission de l'amour fraternel. Mais ça veut dire que vous allez, dans certaines manières, donner une priorité à la famille de Dieu. Quand vous cherchez à savoir si quelqu'un est vraiment né de nouveau, voilà une chose que je me demande toujours. Est-ce que cette personne est en train de développer un attachement spécial pour les chrétiens? Sinon, il n'a pas encore connu le Seigneur. Ça, c'est mon commandement à moi, dit le Seigneur. Où est-ce que ton attachement particulier aux chrétiens de cette église se manifeste? Vous, ici, aimez-vous les uns les autres d'une manière particulière? Comment est-ce que ça se manifeste? Si je devais demander à quelqu'un d'autre ici, à votre sujet, est-ce que tel chrétien dans cette église, tu as le sentiment qu'il t'aime de manière particulière en tant que frère ou sœur? Qu'est-ce que cette personne dirait? Bien sûr que oui. Je reçois des gestes et des preuves de cet amour de cette personne. Troisièmement, le caractère de l'amour fraternel. Les versets 12 à 13 encore. Jésus nous dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour fraternel, d'abord, est une prolongation de l'amour de Jésus pour toi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est parce que vous avez été aimé et dans la mesure où vous jouissez, vous expérimentiez cet amour de Christ, où ça va déborder un peu de votre cœur vers les autres. Donc là, quand vous avez un problème à aimer les autres chrétiens, voilà la première chose à faire. Ne pas penser au comportement de cette personne qui vous agace, mais pensez, combien est-ce que je suis en train de jouir et de me délecter de l'amour de Jésus-Christ pour moi en tant que personne pas très aimable en ce moment? Parce que quand je me sais aimé là où je ne devais pas être aimé, cette même sorte d'amour m'habite et déborde vers les autres. C'est la seule manière de le faire. Tout amour dans votre cœur qui n'est pas une prolongation, un débordement de l'amour de Christ pour vous, ne va pas aller très loin. Nous voyons cela dans 1 Jean 4. On pourrait aller là si vous avez envie. Regardez, lisez ce chapitre où Paul Jean dit que l'amour est de Dieu et nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Souvent, les gens comprennent mal ce verset. Ils pensent que le verset est en train de dire « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est pas ce que le verset dit. Le verset dit « Nous aimons qui que ce soit, Dieu ou les autres, parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, la deuxième chose que nous pouvons dire au sujet du caractère de l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour qui se donne. Qui se donne complètement. Et Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour. » Ça nous plaît, n'est-ce pas, de voir que Dieu nous commande d'avoir un grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, l'amour chrétien est la fin de cette attitude qui dit, je m'occupe de moi premièrement. Je pense à moi le premier. C'est la fin de cela. C'est le commencement du contraire. Je pense à vous d'abord. Quand Paul écrit dans l'épître aux Philippiens, c'est intéressant, il dit, et même si je sers de libation, vous savez ce que c'est qu'une libation? C'est une sorte de sacrifice, mais de liquide, soit du vin ou souvent du vin qu'on verse et on gaspille par terre. Ça, c'est une libation. Et il dit, si moi, je sers de libation, si ma vie se déverse et finit, si je sers de libation pour le sacrifice et le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je m'en réjouis avec vous tous. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. En fait, les frères et les sœurs, nous n'avons que deux choix. Soit je vais vivre dans la peur, dans la crainte pour ma sécurité à moi.
et je vais penser à moi le premier. Ah, mais si je fais telle chose pour lui, si je donne telle chose dont il a besoin, ou si je fais, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Et si je choisis de vivre dans cette crainte égocentrique, je vais rétrécir mon cœur et je vais être une personne au cœur étroit pour le reste de ma vie. Ça, c'est la crainte égocentrique. Ou bien, je peux juste, dans la foi, savoir que quand je vais aimer quelqu'un, quoi que ça coûte, le Seigneur s'en occupe. Si je me sers de libation, quelle gloire de partir en feu! Formidable! Et je ne vais pas partir en feu avant le jour où le Seigneur le veut. N'est-ce pas? Bien sûr, il y a une certaine prudence que nous devons avoir à ménager nos efforts. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais on ne parle pas de ça, n'est-ce pas? On parle du fait que nous devons nous livrer un peu plus pour les autres, n'est-ce pas? Et quand vous avez été aimé par quelqu'un qui se donne pour vous, voilà ce serviteur de Dieu avec nous, les jeunes, nuit après nuit, dans ce moment de campagne chrétienne, plus âgé que nous, un père dans la foi, et il a tellement mal aux yeux, parce que ses lentilles, il a tellement veillé nuit après nuit avec nous qu'il n'en peut plus au niveau de la douleur de ses yeux, et il veille encore. Et il nous parle parce qu'il n'a pas beaucoup de temps avec nous et il se donne complètement. On dit, on n'oublie jamais cet homme. On n'oublie jamais ce moment. Donc c'est un amour qui se donne. Et il y aurait d'autres choses à dire là-dessus. C'est un amour de grâce, de patience. Peut-être vous vous demandez pourquoi il dit c'est se donner pour ses amis. Je pensais que Jésus s'est donné pour ses ennemis. Oui, mais on n'est pas en train de comparer les deux choses. Pour le moment, il est avec ses amis et il veut penser à son amour en tant qu'un amour entre amis. D'accord? Et maintenant, ça nous amène à l'intimité de l'amour fraternel. Les versets 13 à 16. Les versets 13 à 16, Jésus dit ceci. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Les amis, Jésus est en train de décrire dans tout ce passage son amour. Il nous dit dans le premier verset, dans le dernier verset, aimez-vous les uns les autres. Et pour le reste, il parle tout simplement de son amour pour nous, parce que c'est le modèle et le moteur. Et ce qu'il nous dit, entre autres, c'est que son amour pour nous n'est pas un amour fonctionnel ou utilitaire, comme dans une entreprise. Je te connais en tant qu'employé, serviteur. Et tu es important pour moi en fonction seulement de mon but que tu ne connais même pas, que je ne te dis pas tout ce que l'entreprise a en tête, mais tu me sers tout simplement. Bien sûr, nous n'allons pas aller jusque-là les uns avec les autres, mais nous pouvons, et c'est le problème humain, pécheur, nous pouvons utiliser les autres, n'est-ce pas? Nous devons jouir des autres et utiliser les choses. Mais parfois, nous utilisons les autres et nous jouissons des choses, n'est-ce pas? Et tout est à l'envers. Mais Jésus est en train de dire que nous, le commande que nous recevons, c'est une commande de développer une vraie amitié profonde les uns avec les autres. Maintenant, où est-ce que nous en sommes dans cette église? Parce que c'est un commandement.
ce n'est pas facultatif, vous ne pouvez pas vous en passer, vous devez avancer et progresser. Et quelle est la marque de cet amour d'amitié? C'est l'intimité. Il dit, le maître ne dit pas ce qui est dans son cœur, ses plans, ses ambitions, ses rêves à ses employés. Mais moi, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Vous savez tout. J'ai partagé mon cœur et le cœur de mon Père avec vous. C'est-à-dire, je vous ai amené dans le cercle rapproché. Vous n'avez jamais été dans un grand groupe où il y a un cercle un peu plus rapproché, des gens qui sont très intimes, qui se connaissent hyper bien, et vous êtes là aussi, vous, oh, je voudrais bien être dans le cercle rapproché, mais vous n'y êtes pas, n'est-ce pas? Les filles ont ce problème tout le long de l'école, n'est-ce pas? Il y a des cercles rapprochés, et puis vous voulez être dedans, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ça. Le Seigneur est en train de nous dire que dans notre amour fraternel, nous devons inviter les frères et sœurs dans cette église locale, entrer dans mon monde où il y a mes rêves, où il y a mes luttes. Je vais pas faire en sorte que vous ne savez pas qui je suis réellement. Et je vous demande, est-ce que les gens dans cette église savent qui vous êtes, le vrai vous? Et je sais que la réponse est souvent loin de cela, mais très loin. Il y a des choses importantes qui arrivent dans votre vie, et je ne vous dis pas de donner tous les détails de votre vie aux autres, mais nous devons nous aimer les uns aux autres. Et comment est-ce qu'on s'aime s'il y a quelque chose de très très important qui arrive dans la vie de mon frère? Et c'est une chose qu'il aurait pu me dire, mais jamais. Vous voyez combien nous nous freinons et combien ce commandement n'est pas gardé. Lorsque, par l'orgueil, pour moi c'est l'orgueil, c'est la fierté qui m'amène à ne pas vous dire que j'ai lutté à prier cette semaine du tout. ou que j'ai lutté avec telle autre chose, ou que j'étais fâché la moitié du week-end avec quelqu'un à cause de quelque chose. Et puis même ma femme n'a pas pu me raisonner. Enfin, je donne des exemples. Il y a aussi des bons moments. Mais n'est-ce pas simplement que nous avons besoin, comme le Seigneur dit, vous êtes mes amis, vous devez vous aimer en tant qu'amis. Et ça veut dire lâcher, laisser tomber les murs un peu. Ensuite, l'initiative de l'amour fraternel, rapidement, le verset 16. Le verset 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Parce qu'il vient de nous dire que nous sommes ses amis, et qu'il se livre à nous complètement. Et nous pouvons être tentés de penser que, ah, ça c'est parce que je l'ai tellement cherché, que moi j'ai réussi à être proche du Seigneur à force de mon désir à moi. Le Seigneur dit non. Si vous connaissez Dieu, la raison n'est pas vos disciplines spirituelles, vos recherches. La raison pour laquelle vous connaissez Dieu de mieux en mieux, c'est que Dieu a choisi souverainement d'avoir affaire avec vous. Dieu, dans l'amour, a voulu avoir affaire avec vous. Et ça, je m'en reviens, j'y pense presque tous les jours. Que ça, c'est la raison de tout le reste. Si Dieu ne voulait pas avoir affaire avec moi, je pourrais le chercher jusqu'à ce que je cesse de respirer. Mais le secret de votre vie, c'est que vous ne l'avez pas choisi, mais il vous a choisi. Il vous a choisi. Ça ne peut pas changer. Et il vous a établi en relation avec lui. Maintenant, dans notre amour les uns pour les autres, est-ce que vous prenez l'initiative parfois, comme Jésus a prié avec vous? Ou bien, est-ce que vous êtes une de ces personnes dans l'église, il y en a, que si vous allez vers eux et vous vous intéressez à eux, ils sont sympas en réponse. En réponse. Mais pour que eux, ils aillent vers quelqu'un pour s'intéresser, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, pour les connaître, pour chercher à les connaître, pour prendre l'initiative, pour choisir d'aller, ne pas être choisi, mais choisir. Nous aussi, nous devons imiter un tel amour. C'est ça, l'amour fraternel. Et en tant que pasteur, je regarde. Je ne juge pas parce que je lutte aussi avec l'amour. Mais je regarde et je suis toujours vraiment fier de vous quand je vous vois aller vers quelqu'un avec qui je sais fort bien que vous n'auriez pas peut-être d'attache naturelle, n'est-ce pas? Une affinité naturelle. Ou lorsqu'il y a des visiteurs, lorsque je vous vois aller vers des étrangers et vous intéresser, mais vraiment, je dis, ah mais là, c'est ça, c'est ça. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi aujourd'hui. N'est-ce pas? La dernière chose que nous pouvons dire, c'est la mission de l'amour fraternel. Et ça, c'est la fin du verset 16. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et afin que votre fruit demeure. Alors ce fruit, je crois qu'il n'y a aucun doute que c'est le fruit de l'évangélisation. Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Paul a dit qu'il voulait venir prêcher l'évangile à Rome afin de porter du fruit là comme il en a porté dans d'autres endroits. Le fruit, c'est des gens qui viennent au Seigneur. Et Jésus est en train de dire, l'amour fraternel que je vous commande, ce n'est pas un amour qui va vous amener à rester dans un petit cercle élite et entre chrétiens. Vous avez presque peur de connaître des non-chrétiens, vous êtes les élus gelés, vous êtes congelés maintenant entre vous. Non, c'est pas l'amour fraternel ça, ça c'est l'amour infernal. Mais non, il est en train de dire que l'amour fraternel c'est un amour qui a tendance à... On peut le voir comme ceci. La mission de l'évangélisation, c'est quoi? C'est le fait que Dieu nous a aimés en Christ et nous a mis dans une famille d'amour, un monde d'amour, et on a envie d'amener autant de personnes possibles là-dedans. Je dis que l'amour de fraternel, c'est exactement comme la glace italienne. Vous êtes d'accord? Dès qu'on a goûté la glace italienne, on a envie d'amener autant de personnes que possible à faire la même expérience. Et c'est ça l'évangélisation. On a goûté de cet amour fraternel en Christ et on veut aller et amener plus de gens là-dedans. Donc l'amour fraternel n'est jamais exclusif, mais toujours expansif. Je crois que nous voyons que quand le Seigneur nous commande cet amour fraternel, c'est quelque chose de vaste, de profond, d'exigeant et de formidable. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider à jouir de cet amour et lui plaire de plus en plus de cette manière. Nous allons chanter ensemble dans le carnet, le numéro 75.